C'est bon?
Ok, les enfants peuvent monter avec moi. C'est moi qui vais m'occuper d'eux.
Bien, bonjour à tous. Je le dis plus particulièrement pour ceux qui nous rendent visite. Nous avons terminé un cycle d'études de la lettre aux Romains, qui était donc une étude systématique, chapitre par chapitre. Et là, nous avons suggéré d'entamer une étude, alors pour le coup thématique, sur les paraboles. Alors c'est la deuxième fois qu'on aborde ce sujet. Et donc, chacun des orateurs qui se succèdent choisit une parabole et, dans la mesure de ses moyens, essaye d'en faire l'étude. Et donc, ce sera mon cas ce matin. Et j'ai choisi comme parabole, alors, une des plus connues, si ce n'est la plus connue. Et donc, je vais lire le chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Luc. Chapitre 15. Je vais lire la totalité du chapitre parce que ça me paraît nécessaire pour l'explication. Voilà. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de lui, c'est-à-dire de Jésus, pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes murmuraient et ils disaient: Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors il leur dit cette parabole: Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et il leur dit: Réjouissez-vous avec moi car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, quelle femme, si elle a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, n'allume pas la lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Et quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, la pièce que j'avais perdue. C'est ainsi, je vous le déclare, qu'il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Et il dit encore: Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout vendu, partit pour un pays lointain, et il y dilapida son bien dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoyait dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit: Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais aller vers mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Il alla vers son père, et comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit: Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Vite! Apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné, pardon, était au champ. Quant à son retour, il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce qui se passait. Celui-ci lui dit: C'est ton frère qui est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. Alors il se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier, mais il répliqua à son père: Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres et à moi tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles en grec c'est des prostituées, hein, tu as tué le veau gras pour lui. Alors le père lui dit: Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à toi est à moi. Mais il fallait festoyer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, et il est vivant, il était perdu, et il est retrouvé. Voilà. Je ne m'attaquerai, si je puis dire, qu'à la deuxième partie du chapitre, c'est-à-dire à la parabole qu'on appelle improprement la parabole du fils prodigue, prodigue c'est-à-dire dépensier. En fait, il faudrait appeler cette parabole la parabole des deux fils, puisqu'il est question de deux fils, mais comme il y en a une autre qui s'appelle comme ça, vous vous en souvenez peut-être, il y a une parabole où Jésus dit « un père envoie son fils dans son champ, il lui dit « va travailler dans mon champ », le fils dit « non » et il le fait quand même, et puis l'autre fils dit « oui » et il ne le fait pas, ou inversement. Bon, donc ça, c'est ce qu'on appelle habituellement la parabole des deux fils, et du coup, celle-là, il faut l'appeler autrement, et on parle du fils prodigue, ce qui d'ailleurs a un sens, c'est que on tire davantage de leçons par rapport au fils cadet que par rapport au fils aîné. Or, ce qu'on dit à propos du fils aîné a au moins autant d'importance que ce qu'on dit à propos du fils cadet. Mais c'est peut-être aussi qu'on ne veut pas le voir ou pas l'entendre. Alors, pourquoi est-ce que j'ai lu tout le chapitre ? Et encore une fois, je vais laisser de côté les premières explications que Jésus donne à propos de la brebis perdue et de la pièce d'argent perdue aussi et dans les deux cas retrouvée. C'est parce qu'il ne faut pas perdre de vue quand on étudie ce texte que Jésus, là, ne parle pas en l'air. Il parle pour répondre à des gens qui disent, qui se disent entre eux, vous avez vu qui fréquente ce type ? Vous avez vu ces relations ? Ça existe en français, mais l'idée existe aussi à l'époque et dans le contexte. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Or, ce que Jésus fréquente, c'est ce qu'il y a de pire dans la société. Alors, on dit collecteur d'impôts, pourquoi collecteur d'impôts ? Alors, ce sera un peu long à expliquer, mais enfin, considérez que collecteur d'impôts et pêcheur, c'est presque synonyme. Ce sont deux mots qui se renforcent. En tout cas, ce sont les gens qui, par définition, sont infréquentables. Et qui est-ce qui dit ça ? Qui est-ce qui dit « Jésus fréquente ce que la société fait de pire » ? Ben, évidemment, ce sont ceux que la société fait de mieux, c'est-à-dire les pharisiens et les scribes. Alors là, irréprochable, les gars. Et donc, si... par hasard, le Messie doit enfin venir, parce que ça fait un moment qu'on l'attend, et s'il doit fréquenter des gens dans la société juive, bah c'est évidemment des gens de la bonne société. C'est l'élite, la crème de la crème, comme on dit dans les grandes écoles. Et la crème de la crème, c'est les pharisiens et les scribes. Et au lieu de ça, il va se mélanger avec des types infréquentables. Et c'est ça, c'est dans ce contexte-là, et pas dans le vague, que Jésus va dire, attendez, écoutez-moi bien, j'ai trois histoires à vous raconter. Alors, trois paraboles qui, évidemment, disent la même chose, c'est-à-dire que les ingrédients qu'on retrouve sont les mêmes. Dans un cas, c'est... une brebis, dans un autre cas, c'est une pièce, et dans un troisième cas, c'est un fils. Mais à chaque fois, perdu, retrouvé. Et ce qui transparaît dans ce texte, et je vous assure que dans l'original, c'est particulièrement flagrant, c'est l'immense joie de celui qui retrouve, après avoir cherché. La première leçon... sans aller chercher des choses très compliquées, la première leçon qu'il faut tirer de ces textes, c'est le bonheur immense de Dieu quand un être humain redevient un de ses enfants. Là, il n'y a pas de, à mon sens, les goûts et les couleurs, mais il n'y a pas de plus belle phrase dans la Bible, à mon avis, que celle qui, dans le prologue de Jean, dit... à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné la capacité de devenir des enfants de Dieu. Et ça, c'est inouï. Et c'est pas à notre portée de comprendre à quel point la joie de Dieu, quand il retrouve, pour prendre l'image de la parabole, l'un d'entre nous est immense. Alors effectivement, à ces gens de la bonne société qui le critiquent parce qu'il fréquente ce qui se fait de pire, il va répondre par cet exemple, et notamment par cet exemple de cet homme qui avait deux fils. Alors, ça n'a malheureusement pas été enregistré, mais pour ceux qui étaient là, je vous renvoie à ce que Luc, qui a fait l'introduction aux paraboles il y a 15 jours, nous disait, et notamment le fait qu'une parabole, ça n'est pas un outil pédagogique. C'est-à-dire, ça n'a pas pour vocation de dire aux gens qui l'entendent, c'est comme ça qu'il faut faire. Par exemple, je prends un exemple extrême, Jésus n'a jamais eu pour but de dire aux gens qui l'écoutaient, quand vous employez quelqu'un pendant 12 heures et quand vous en employez un autre pendant une heure, il faut les payer pareil. Non, ça n'a pas de sens. Humainement, ça n'a pas de sens. La parabole, elle n'est pas faite pour ça. Et là, la parabole des deux fils, elle n'est pas faite pour dire aux gens, voilà comment il faut s'y prendre. Parce que moi, je vous fais un aveu tout de suite. Comme ça, on sera débarrassé. C'est que si mon fils vient me voir en disant, bon, tu vas couper le patrimoine en deux, un pour moi, un pour ma sœur, et puis merci d'avance, ben, je vais lui dire, mon coco, tu vas attendre que je sois un peu plus mort. Et c'est ça qui parce que on ne comprend bien le message biblique que quand on relève ce qu'il a de surprenant, ce qu'il a de dérangeant. Et là, ce qui nous dérange, c'est que un fils vient dire à son père, eh ben, donne-moi ma part. Ça tombe bien, on est deux, donc c'est facile à couper. Donne-moi la moitié de ce que tu possèdes, l'autre moitié c'est pour mon frère, pas de problème, et puis tu me le donnes, et puis merci, au revoir. Ça veut dire quoi? Et le texte prend la peine de nous dire que, parce que la propriété à cette époque-là, elle a une consistance, hein, c'est pas de l'argent déposé sur un compte, c'est des champs, c'est des choses très concrètes. Et le texte prend la peine de nous dire qu'une fois que le partage est fait, lui, il vend tout ce qui lui a été dévolu par son père, et il s'en va, j'allais dire, le plus loin possible. Le texte prend la peine de dire qu'il part dans un pays lointain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire d'être très loin et trop loin pour avoir encore des contacts et d'avoir pris l'héritage? Eh bien, ça veut dire que symboliquement, son père est mort. Il a tué son père. Alors, tuer son père, pas au sens physique du terme. On n'est pas dans une parabole. Jésus donnera des paraboles où, effectivement, il est question de tuer les vignerons qui tuent le fils. Bon, là, effectivement, il n'y a pas de sang qui coule. On est bien d'accord. Mais et c'est pas non plus un meurtre au sens, j'allais dire, psychanalytique du terme, c'est-à-dire c'est pas le complexe d'Œdipe, il ne tue pas symboliquement son père pour pouvoir coucher avec sa mère. D'ailleurs, pour qu'on sache bien que le père c'est Dieu, il n'est pas question du tout d'une mère dans ce récit. Mais donc pas au sens psychologique du terme, mais au sens, j'allais dire, philosophique du terme, cet homme a tué son père. Et, on a la chance. Alors, de mon point de vue, c'est tout sauf une chance, c'est le contraire d'une chance. Mais on est à une époque où c'est facile pour nous, encore plus que pour les gens qui l'ont entendu, de comprendre ça. Parce que, pourquoi? Ben, parce que, intellectuellement, la mort de Dieu, elle a été théorisée. Depuis un siècle et demi, enfin depuis, oui, un peu plus, mais enfin, elle a été évoquée il y a un peu plus de deux siècles, et depuis un siècle et demi, théorisée. Vous avez sans doute tous entendu parler de Friedrich Nietzsche, qui est le grand théoricien de la mort de Dieu. Dieu est mort, c'est une des phrases de Nietzsche que tout le monde connaît. Mais Faut pas se méprendre, parce que en général, quand on dit ça à des évangéliques, ils disent oui, bah, Dieu est mort signé Nietzsche, et bah, Nietzsche est mort signé Dieu, parce que Nietzsche aussi, il a fini par fermer son parapluie. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas de savoir si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Le problème, c'est de savoir si on a ou pas une relation avec lui. Si, parce que Monsieur Ping, alors Monsieur Ping, c'est un type, enfin, je suppose qu'il y en a bien un qui s'appelle Ping, ils sont 1 milliard 300 millions, donc il y en a bien un qui s'appelle Ping. Donc le Chinois qui est, au hasard, mettez-le où vous voulez sur la carte de Chine, mais pour moi, qu'il soit mort ou vivant, ça ne fait aucune différence. On ne se connaît pas, on n'a aucune chance de se rencontrer un jour, et puis je fais ma vie sans tenir compte de la vie, justement, de M. Ping. C'est ça, la mort de Dieu. C'est pas est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, ça, c'est pas la question des philosophes. Mais notre monde contemporain a décrété la mort de Dieu, au sens où, pour la plupart des gens qui nous entourent, qu'il y ait un Dieu ou qu'il n'y en ait pas, ça fait rigoureusement aucune différence. C'est « je vais faire ma vie » et ce que Dieu, pour autant qu'il existe, peut en penser ou en dire, mais ça m'est complètement égal. Je coupe les ponts avec ce Dieu qui m'empêche de vivre, et donc je vais mener ma vie en étant mon propre Dieu. C'est ça, l'attitude du Fils. Ce que le Fils dit à son Père, qui est encore une fois une démarche d'émancipation, c'est « je n'ai pas besoin de toi pour me dire ce qui est bien et ce qui est mal, ça je vais le déterminer tout seul, et puis surtout je vais mettre entre nous une distance suffisante pour que tu n'interfères pas dans mes affaires et que je sois mais complètement autonome. » Ça, c'est effectivement, alors je ne veux pas transformer ça en cours de philosophie, mais après Nietzsche, il y a Sartre. Parce que Nietzsche, dont on connaît la phrase « Dieu est mort », la phrase complète, c'est « Dieu est mort » et c'est nous qui l'avons tué. Dans ce sens-là du terme, bien sûr. Et Sartre qui dit « il n'y a plus rien, alors de mémoire, il n'y a plus rien au ciel, ni bien ni mal, ni personne pour me donner des ordres. » Et donc, du coup, je suis... moi, à la tête de mon existence, c'est pour ça que ça s'appelle l'existentialisme, parce que la phrase de Nietzsche, elle est dans un, peu importe, mais elle est dans un bouquin qui s'appelle Ainsi parlait Zarathoustra, et la phrase de Sartre, elle est dans un bouquin qui s'appelle L'existentialisme est un humanisme. Mais encore une fois, peu importe, existentialisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je suis mon propre Dieu. Donc du coup, je suis le seul décideur, mais je suis aussi le seul responsable. Alors, encore une fois, dire à son père, donne-moi, fais comme si tu étais mort. En tout cas, moi, je vais faire comme si tu étais mort. C'est-à-dire, j'ai ma part d'héritage, et puis, je suis suffisamment loin de toi pour ne plus entendre parler de qui tu es, de ce que tu fais, de ton avis. Et l'attitude de l'immense majorité de nos contemporains à l'égard de Dieu, c'est celle-là. On se désole du fait que la France est en train de devenir de plus en plus athée. Moi, j'ai connu l'époque où c'était un tiers de croyants, un tiers d'athées, un tiers d'agnostiques. Maintenant, il y a une majorité d'athées, mais c'est, j'allais dire, c'est pas illogique, dans la mesure où ce désir d'émancipation, c'est une vague de fond qui maintenant remonte à 2 siècles. Alors, Il y a 3 conséquences sur lesquelles je voudrais attirer votre attention dans cette démarche d'émancipation. J'allais dire les dommages collatéraux. Le premier, c'est que, ça fait partie aussi des leçons de la parabole, en tuant son père, encore une fois symboliquement, mais en coupant les ponts en rompant complètement les liens, c'est une démarche d'émancipation forte, encore une fois, avec son père, eh bien, inévitablement, il le fait aussi avec son frère. Ils habitaient sous le même toit. Je ne veux plus du père comme référence, comme donneur d'ordre, au sens sartrien du terme. Vous remarquerez que c'est Adam dans le jardin d'Éden, ce fils. Hein. C'est « je peux me passer de toi » et surtout « je peux me passer de toi pour me dire où est le bien et où est le mal ». Donc je vais me débrouiller, surtout ne m'aide pas. Plus de relation avec Dieu, plus de relation avec le Père, mais plus de relation avec le frère non plus. Et l'être humain en rébellion contre Dieu ne mesure pas à quel point le fait de se couper de Dieu, c'est aussi se couper les uns des autres. Du coup, l'autre qui devrait être le frère, ça devient progressivement l'étranger. Et nous sommes dans une société où les gens sont étrangers les uns aux autres au sens le plus fondamental du terme. Tout simplement, alors pardon si ça vous paraît simpliste, mais pour moi c'est une vraie conviction, tout simplement parce qu'on est coupé de Dieu. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Se couper de Dieu, c'est aussi se couper des autres. Ça, c'est la première. La deuxième remarque, c'est que, au départ, ça se passe pas mal. Je vous remercie. Parce que, évidemment, quand on vend tout ce qui constitue un héritage, ça fait un gros paquet de pognon. Et avec un gros paquet de pognon, quand on va à la ville, parce que c'est ce qu'il fait, plutôt que d'aller au champ, hein, c'est quand même beaucoup plus sympa, quand même plus sympa d'être à Saint-Tropez ou à Ibiza que d'être dans le Cantal. Hein, bon. Et ben, on s'éclate du coup. Puis alors, c'est fou! Et on n'est pas loin de Cannes, hein, donc moi j'ai été cannois pendant suffisamment longtemps pour vous dire à quel point c'est vrai. Quand vous êtes blindé, si j'étais vulgaire, je dirais péter de thunes, c'est fou ce que les gens vous trouvent sympa. Hein. Alors en boîte de nuit, le mec qui commande les bouteilles de champagne, c'est vraiment un type bien. Et bien lui, c'est ce qui lui arrive. Hein. C'est ce qui lui arrive. Effectivement, ça commence très bien son histoire. Sauf que, ça commence très bien et ça finit très mal. Parce que la rupture avec Dieu, ça a toujours au départ quelque chose de séduisant, bien sûr. Sinon, personne ne tomberait dans ce piège. Encore une fois, je comparais avec ce qui se passe dans le jardin d'Éden, mais vous allez voir si vous mangez du fruit, à quel point vous allez devenir des dieux vous-même. Mais écoutez, tu vas voir, abruti, tu vas voir à quel point le fait de te séparer de ton père, eh ben ça va être toi le chef, ça va être toi le roi, en plus du pognon plein les poches. Mais tu vas voir, c'est toi qui vas régner sur la cour de ceux qui vont venir faire la fête avec toi par pur intérêt. Ok. Ça commence très bien, mais ça finit très mal. Ça finit très mal parce que, et effectivement, la parabole n'envisage pas une seconde le fait que ça aurait pu se prolonger éternellement. Parce que, comme vous le savez, l'argent, ça ne pousse pas au pied des arbres. Hein. Donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de copains non plus. Hein. Et donc on se retrouve tout seul. Et puis on se retrouve tout seul sans argent. Et donc, vous savez ce qui lui arrive pour arriver péniblement à manger, mais il va quand même mourir. Alors, la deuxième leçon, si je puis dire, c'est que, effectivement, l'émancipation à l'égard de Dieu, ça commence toujours très bien. Moi, j'ai des potes, c'est beaucoup dit, hein, mais je connais des gens, on va dire ça comme ça, qui ne s'interdisent rien, parce que... ni Dieu ni maître, justement. Alors, effectivement, il y a toujours un temps où ça paraît quand même beaucoup plus cool de s'éclater que de se lever le dimanche matin pour venir chanter des trucs. Ouais. Mais il y a un moment où les choses s'inversent quand même. Il y a un moment où on s'aperçoit que celui qui garantissait Le gîte et le couvert, c'était le Père. C'est le Père qui, durablement, garantit la vie, tout simplement. Et donc, l'éloignement du... C'est aussi, pardon pour la comparaison que je remets sur le tapis, mais vous allez être des dieux. Et Dieu qui dit, mais fais gaffe quand même, parce que si t'en manges, tu vas mourir. Au bout du compte, au départ, ça va être cool, parce que tu vas t'apercevoir, sans que tu aies besoin de me demander ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, tu vas t'apercevoir que tu es à poil, donc tu vas inventer les vêtements, bon, très bien, tout ça, ça va te donner une idée de ce que... Bon, mais à l'arrivée, tu vas mourir. Tu vas mourir parce que la vie, c'est moi, et que si tu t'éloignes de moi, ben, tu te coupes de la source de vie. Et la leçon que prend ce fils cadet, c'est ça. C'est grâce au Père qu'il est vivant. Parce que c'est le Père qui le nourrit. Et donc, une fois qu'il a claqué tous les biens du Père, parce que généreusement, le Père lui dit pas, parce que, bon, je n'ose pas penser, encore une fois, trop loin à ce que serait ma réaction à moi, mais c'est pas un coup de pied dans le derrière, et puis, tu veux te barrer, barre-toi, mais t'auras pas un rond. Le Père, dans ça, alors d'abord, et c'est pour ça que c'est une parabole et pas un outil pédagogique, c'est que le Père ne discute même pas. Le Père, hein, parce que dans ce contexte, vous vous rappelez que dans la loi qui a été donnée à Moïse, la désobéissance, c'est puni de mort, c'est la lapidation pour un enfant qui désobéit. Bon. Donc le Père aurait très bien pu dire à son fils, pas question que tu touches un rond avant que je sois mort, bon, d'une part, mais surtout, et puis tu vas rester là parce que c'est moi qui commande. Bon. Et avec un sens inouï de la liberté, le Père dit « bon, d'accord ». Le sens inouï de la liberté, c'est le même qui fait que dans le jardin d'Éden, le fruit interdit était à portée de main. Moi, j'ai toujours pensé qu'il aurait suffi de le mettre à 3,50 m, comme il n'y avait pas d'échelle. C'était marrant. Pourquoi est-ce que... Non, parce qu'on peut, dire, on peut commenter ça en disant « il faut quand même être pervers ». Pardon pour... pardon pour le blasphème, mais il faut quand même être pervers pour mettre à portée de main un fruit qui est interdit. Bon. Mais c'est quoi? C'est la liberté. C'est la liberté absolue. Y a deux possibilités pour savoir où est le bien ou où est le mal. Soit tu me demandes, soit tu ne me demandes pas et tu bouffes le fruit. Mais si tu bouffes le fruit, ça coupe notre relation. Ça, c'est un sens absolu de la liberté. Que serions-nous si Dieu n'avait pas fait de nous des êtres libres? Et donc cet enfant, même s'il a été élevé par un père qui lui a donné tous les éléments d'éducation qui lui sont nécessaires, il est avant tout absolument libre, au point d'oser dire à son père, « File-moi ma part d'héritage, je me barre. » Et le père ne discute pas. Donc le deuxième dommage collatéral, c'est que on commence par ce qu'il y a de meilleur dans la rébellion, mais on finit toujours inévitablement par ce qu'il y a de pire. Et puis la troisième, je l'ai déjà évoqué, c'est que, en disant exactement comme Adam, alors pardon, mais là. La ressemblance est tellement frappante que j'y reviens à chaque fois, exactement comme Adam en Éden, en prenant la position qu'il prend, le Fils décrète sa propre mort. En prétendant tuer le Père, notre civilisation programme sa propre mort. On va tous mourir. Comme Adam, si tu fais ça, tu vas devoir mourir. Et là, les termes qui sont employés, c'est pas pour rien qu'au moment où il commence à prendre conscience de la situation, il dit « je suis en train de mourir, là, parce que j'ai plus à bouffer. » Et donc, si je fais pas quelque chose, et puis alors, bon, je veux pas allonger le propos, mais la symbolique des porcs, hein, animal impur par excellence, il se retrouve Alors, effectivement, si j'étais grossier, je dirais le nez dans son. Parce que c'est l'impureté absolue. La rébellion contre Dieu, c'est ça, au final. L'impureté absolue et la mort. Et donc, alors, effectivement, là, il y a une réflexion qui vient, c'est que on aurait préféré, ça aurait quand même eu plus de panache, si pendant qu'il était en train de faire la fête, pendant qu'il avait encore du pognon plein les poches, s'il s'était dit, ah oui, mais quand même, alors je vis une vie extraordinaire, mais quand même, je m'ennuie de mon père, mon père me manque, donc je vais y retourner. Là, ça aurait été noble. Bon, là, on est obligé de constater que c'est pas complètement désintéressé. C'est parce qu'il est en train de crever et malheureusement, l'être humain, c'est ça. Moi, j'allais dire, par nécessité, je vais pas être hypocrite en vous disant que c'était une punition, mais j'ai assisté à un certain nombre de fêtes cannoises. Jamais personne dans ces moments-là ne s'est penché sur mon épaule pour me dire, faudrait quand même que je me pose sérieusement la question de l'existence de Dieu. Quand on fait la fête et que le champagne coule à flot, on pense pas. Mais en revanche, la dernière personne, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit je me suis posé la question de l'existence de Dieu et j'y ai répondu, il existe, c'est quelqu'un qui avait passé un mois dans le coma. Parce que là, effectivement, quand on touche la mort de près, alors la mort sous toutes ses formes, c'est pas forcément la mort, ça peut être la maladie, ça peut être enfin, les ennuis aussi divers et variés, mais souvent, force est de constater que pour que l'être humain revienne vers Dieu, il faut que dans sa vie, ça se passe pas si bien que ça, pas si bien qu'il l'avait espéré. Bon, c'est humain. Mais ce retour, alors effectivement, c'est clairement la description d'une conversion au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire un changement de mentalité, un changement intérieur. Mais ça ne suffit pas. La métanoïa, c'est le mot grec, mais la conversion, ou comme vous voulez, ça ne suffit pas à rétablir les choses. Qu'est-ce qui va rétablir les choses? C'est pas le fait qu'il revienne, parce que dans son retour, il y a quelque chose d'ambigu et il le sait bien. C'est qu'il dit, bon, je vais retourner vers mon père et je vais lui dire, Père, je peux plus être ton fils. Il l'appelle père, mais il sait bien que une fois devant lui, il va être obligé de concéder le fait que cette qualité de fils, il l'a perdue. Et donc, il ne peut pas se la réapproprier. Il ne peut pas arriver en disant, bon ben voilà, j'ai fait une connerie, on est d'accord, je reviens, et puis on oublie tout. Couper, c'est pas bon, on l'a refait. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui va rétablir les choses, ce n'est pas la repentance du Fils, c'est l'accueil du Père. Nous sommes redevenus enfants de Dieu parce que Dieu nous a accueillis. Et accueillis de quelle manière? C'est-à-dire, et chaque mot compte, puisque vous savez que le Père, d'abord, attend son Fils, puisqu'il le voit quand il est loin encore. Donc ça veut dire que le Père n'a jamais cessé de regarder dans la direction où le Fils était parti, en disant peut-être qu'un jour il va revenir. Dieu sait ça. Avec chaque être humain, j'espère qu'un jour il va revenir vers moi. Et quand ça arrive, alors là, c'est l'explosion de joie, mais on ne laisse pas le fils rentrer dans la maison comme un esclave. Le père, parce que il faut encore une fois s'attacher aux détails. Moi, si ça m'arrive, encore une fois, ben, je dis à mon fils, bon, ben viens, avec tes loques là, tu vas rentrer dans la maison, d'abord tu vas prendre une douche, et puis après, on va te refiler des fringues. Non, non, non. Le père ne fait pas ça, ça aurait été ça la logique. Là, le père dit à ses serviteurs, avant que le fils arrive jusqu'à la maison, d'abord il l'embrasse, et il dit, amenez une robe, amenez des sandales, amenez un anneau. Un anneau, ça a du sens, ça veut dire ça veut dire qu'il retrouve sa qualité de fils. Et quand tu auras repris ta qualité de fils, tu vas pouvoir entrer. Dieu nous accueille de cette manière qui démontre un amour absolu en disant, bah, puisque tu es revenu vers moi, je vais d'abord faire de toi un enfant. Je vais te rétablir dans le statut d'enfant de Dieu. Et après, tu vas rentrer dans ma maison. Et là, tu auras toujours à manger. Tu auras toujours de quoi vivre. Et ça, c'est... je vais quand même vous le lire, parce que vous le savez sans doute, mais Paul a théorisé ça. Alors, ça se passe dans la lettre aux Galates. Paul va en faire une doctrine. Galates, chapitre 4, verset 4. Hein. « Quand est venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, pour qu'il nous soit donné d'être des fils adoptifs. Fils, vous l'êtes bien. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. » Dieu a fait pour nous ce que ce père fait pour son fils en lui disant « Terminez l'esclavage. Tu n'es plus esclave. Tu es fils. Je te rétablis dans la dignité que je t'avais donnée à la création. Tu es enfant de Dieu. » Alors, reste beaucoup. Et donc, puisque j'ai dit que ça n'était pas la parabole du fils prodigue, mais la parabole des deux fils, il faut maintenant s'intéresser à l'autre. Il faut s'intéresser à l'autre, au fils aîné. Au fils aîné qui, vous l'avez lu, enfin vous l'avez entendu, entend que c'est la fête, que ça danse, que ça chante, que ça joue de la musique, et il dit, il se passe quoi? Alors il appelle, pareil, un serviteur, il dit, il se passe quoi là? C'est ton frère qui est revenu. Et donc c'est la fête, et ton père a tué le veau gras, machin. Et il y a la tête de l'autre qui s'allonge quand même, parce que, justement, ce que je disais tout à l'heure, en tuant symboliquement le père, le fils cadet a aussi tué son frère. Il a coupé la relation, et tout ce que va dire le frère aîné dans sa colère, c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Il va dire à son père, non mais attends, c'est quoi ce délire? Ce gars qui t'a pris la moitié de ce que t'avais, qui s'est barré avec et qui a fait la foire, et je vous dis, le mot grec c'est prostituée, hein, c'est le mot grec qui a donné pornographie. Hein, bon. Et puis ça t'émeut pas plus que ça de tuer le veau gras. Enfin, toi tu m'as jamais donné, alors vous avez entendu, hein, tu m'as jamais donné de quoi faire la fête avec mes copains, alors que moi j'obéis à tous tes ordres. Et puis alors lui, il suffit qu'il réapparaisse, hop, c'est la fête au village. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et ce qui va déterminer l'explication du père, c'est de dire, mais c'est pas de dire, non, tu te trompes, c'est pas un veau gras, il était pas si gras que ça, le veau. Non, non, j'en ai encore un pour toi, si tu veux. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est, oui, t'as raison. T'as entièrement raison. Mais il y a pour moi, pourrait dire le père à son fils, il lui dit d'ailleurs de cette manière-là, il y a pour moi quelque chose de plus grand que la justice, c'est la miséricorde. Et donc, là je disais tout à l'heure que le fils cadet ressemble beaucoup à Adam, le fils aîné, vous allez trouver mon propos excessif, mais ressemble beaucoup à Cain. C'est pas juste. C'est pas juste que tu traites mon frère comme ça, alors que moi, tu me traites autrement. C'est pas juste que tu me traites plus durement que mon frère, alors que j'ai au moins autant de mérite que lui. Et la réponse de Dieu, comme à Cain, c'est pas de dire c'est pas de dire, bah oui, Dieu ne dit pas à Caïn, oui, finalement, tu as raison, bon, bah, ton sacrifice, allez, pareil, couper, c'est pas bon, on l'a refait, et puis on refait une prise en disant, ah bah, vous m'amenez tous les deux un truc, j'aime autant l'un que l'autre, enfin, ce que vous m'amenez fait autant plaisir, ce que m'amène Caïn me fait autant plaisir que ce que m'amène Abel. Non. Pas question de refaire le film. Simplement, dans les deux cas, la réponse de Dieu, enfin, la réponse de Dieu à Caïn et la réponse du Père au fils aîné, c'est « Mais il y a quelque chose chez moi qui est plus grand que tout. C'est l'amour. C'est la miséricorde. » Et donc ça m'amène, alors non seulement à accueillir mon fils les bras ouverts, à le rétablir dans sa situation de fils, mais comme pour la brebis, comme pour la pièce d'argent, mais c'est la joie absolue. Et donc moi, ben, quand je suis joyeux, je fais la fête, je sors à manger, je sors à boire, j'invite mes potes, et hop, et là, la fête au bon sens du terme. C'est la joie des retrouvailles, et la joie de retrouver son fils comme un fils. Mais vous aurez remarqué que du coup, le père est aussi obligé de réparer, parce qu'il y a à aucun moment dans le récit, les deux frères ne se parlent. Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué? C'est que le frère aîné, quand il revient des champs, il ne va pas dire à son frère « Dis donc, crétin !» Bon, non, pas de dialogue entre eux. Et pour bien marquer qu'il n'y a pas de dialogue entre eux, quand le père dit « ton frère », l'autre répond « ton fils ». Pas mon frère. Pas mon frère. C'est ton fils, ce mec. C'est pas mon frère. Ton autre fils. Enfin, c'était. Parce que il a fait en sorte que ça soit plus. Et le père dit, mais non, ça marche pas comme ça. Viens dans la maison aussi. Viens dans la maison parce que la joie ne sera pas complète si on fait pas la fête ensemble. Et quand Dieu rétablit un être humain dans son statut d'enfant, il veut aussi prendre le soin, et là le père joue les médiateurs, parce qu'il veut aussi la réconciliation entre nous, et pas seulement la réconciliation avec lui. Alors l'histoire s'arrête. L'histoire s'arrête brutalement, vous l'avez remarqué aussi. C'est-à-dire que dans l'histoire, on sait parfaitement ce que le fils cadet a décidé. On sait parfaitement quelle a été l'attitude du père, c'est-à-dire ce qu'on appellerait nous une passivité, mais qui est en fait l'expression d'une liberté absolue. On sait parfaitement quel a été le mécanisme qui a poussé le fils à revenir vers son père. On sait très bien quel a été l'accueil sans borne dans l'amour du père pour son fils retrouvé. Et on ne sait pas du tout comment va réagir l'aîné. Le récit s'arrête au moment où le père dit à son fils aîné, mais viens, rentre, viens avec nous, viens faire la fête avec nous, parce que ton frère qui était perdu est retrouvé. Et l'histoire ne dit pas, et il entra tout joyeux, effectivement, non, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que, encore une fois, j'ai pris la peine de lire depuis le début du chapitre pour rappeler que Jésus ne dit pas ça dans le vide, mais il dit ça à des interlocuteurs. Il leur dit, et vous, comment allez-vous réagir? Vous les purs, vous les bien-pensants, vous les... Parce qu'on a longtemps cherché, alors qui était le fils cadet, qui était le fils aîné? Bon, là, il y a le sens premier qui est donné dans la parabole elle-même, c'est-à-dire le fils aîné, c'est les pharisiens et les scribes qui obéissent aux ordres. Le texte ironise là-dessus en disant « j'ai obéi à tous tes ordres », c'est-à-dire « j'ai respecté la loi hein. ». C'est transparent. Et donc le fils cadet, c'est les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Puis après on a dit « ben non, le fils aîné, c'est les juifs ». Et le fils cadet, parce qu'eux, ils sont soumis à la loi, machin, etc. Et puis le fils cadet, c'est les païens, enfin les chrétiens d'origine païenne, qui sont accueillis par le père alors qu'ils sont en rupture, bon, etc. C'est, j'allais dire, c'est bien pire que ça. C'est bien pire que ça. C'est-à-dire que, alors, c'est mon point de vue, et comme on dit, je le partage, c'est que la grande leçon de cette parabole, c'est qu'on est tour à tour le fils aîné et le fils cadet, ou plutôt le fils cadet et le fils aîné. Vous avez certainement été choqué, comme moi je l'ai été à la première lecture, par un texte qui dit « Il y a plus de joie pour un pécheur qui se convertit que pour 99 qui n'ont pas besoin de se repentir, qui n'ont pas besoin de se convertir. » Mais qui n'a pas besoin de se convertir ? Même le texte, je voudrais pas, je voudrais être sûr de ce que je dis, mais même le texte dit, oui, c'est ça, 99 justes, 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Alors que dans la même Bible, ou alors c'est que on m'a arnaqué, mais dans la même Bible, il est écrit que personne n'est juste. Il n'y a pas un juste, même pas un seul. Alors là, on trouve 99 tout d'un coup. Comment est-ce qu'on peut être juste ? Ben, il n'y a qu'une réponse dans la Bible. En étant justifié. En étant soi-même converti. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les 99 justes, s'ils sont justes, ce n'est pas parce qu'ils sont irréprochables, c'est parce qu'ils sont justifiés. Et donc c'est nous. Et donc c'est nous. Et donc... On est, effectivement, c'est facile de se reconnaître, si j'osais, mais je vous assure que je ne mens pas, je dirais surtout moi, hein, c'est facile de se reconnaître dans le fils cadet qui accumule les conneries dans tous les sens et que, heureusement, le père vient rechercher en disant « Bon, maintenant on siffle la fin de la récréation et je te rétablis dans le statut qui était le tien. » C'est facile de se projeter dans le fils cadet, parce qu'on sait tous à quel point on a été en rébellion avec Dieu, d'une manière ou d'une autre. Mais il faut aussi se projeter dans le fils aîné. Il faut aussi se projeter dans le fils aîné en disant, bon, donc moi, ça y est, je suis tiré d'affaire, je suis justifié, donc je suis juste. Mais par contre, on ne peut pas accueillir ça. Non, il y a des conditions. Moi, je veux bien aller partager un repas avec lui ou avec elle, mais quand il ou elle aura changé. Et Dieu dit, non mais, ça c'est moi, c'est moi qui décide. Et moi, je décide inconditionnellement de rétablir dans le statut d'enfant de Dieu celui qui revient vers moi, sans attendre qu'il devienne parfait, parce que sinon, on attendrait longtemps. Il reste un moment sur le pas de la porte, hein, s'il faut qu'il retrouve la perfection avant de pouvoir rentrer. Non, non, tu rentres. D'abord, je te rétablis. T'as pas pris de douche, t'es crasseux comme. Mais t'es un fils. Je te mets sur le dos et sur les pieds et aux doigts tous les signes qui vont montrer à tout le monde que tu es le fils de la maison. Entre. Et donc le frère, c'est-à-dire le bien-pensant, et ça nous arrive de l'être. Pardon, ça m'arrive de l'être. Qui dit « Ah oui, mais moi, je ne veux pas de relation avec ce mec, compte tenu de l'ardoise qu'il a, il faut aussi, et c'est là-dessus que ça se termine, et ça se termine brutalement parce que Dieu nous interpelle en disant « Alors toi, comment ? Toi que j'ai justifié, toi qui as été le fils cadet, maintenant que tu es devenu le fils aîné, comment tu vas traiter ton frère ? Comment tu vas l'accueillir ? Est-ce que tu vas me dire, c'est ton fils ou c'est ta fille ? Moi, je ne connais pas. Ou est-ce que, comme je l'ai embrassé, toi aussi tu vas l'embrasser ?